Qui ne l'est pas. La formule est bien tranchée, donc un peu racoleuse. Et ceux qui parmi vous sont venus en espérant des analyses pointues sur la situation actuelle dans nos pays, dans nos sociétés, ou voire pour trouver quelques suggestions de vote, en seront pour leur déplacement. Mon objectif ce soir, je vous rappelle qu'on est dans le cadre d'un cycle sur la foi chrétienne, 10 questions sur la foi chrétienne. Mon objectif ce soir, c'est de donner quelques points de repère, disons théologiques et spirituels, sur l'étrange situation du chrétien dans le monde. Il faut toujours se rappeler que le chrétien est un païen greffé sur Israël, sur la racine juive. Et vous savez que le nom d'Israël est le nom qui a été donné à Jacob, après qu'il eut combattu pendant une nuit avec l'ange de Dieu. Jacob combat avec un mystérieux protagoniste et au matin se retrouve la hanche déboîtée. Et l'ange de Dieu lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, tu t'appelleras Israël, celui qui a été fort dans son contre Dieu ou dans son combat avec Dieu. Comme le juif, le chrétien boite. Il est claudiquant dans ce monde, il n'est jamais tout à fait de ce monde, il n'est jamais tout à fait hors de ce monde et sa situation est toujours quelque peu embarrassante. Alors je détaille un tout petit peu le titre, « Être chrétien dans un monde qui ne l'est pas », puisque l'expression « le monde » dans l'évangile, vous savez peut-être de quel évangile elle vient, hein, de l'évangile de Jean. C'est dans l'évangile de Jean que l'expression « le monde » est employée. Lorsque Jésus dit, par exemple, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Or, le monde, dans l'évangile de Jean, ne représente pas, si vous voulez, le monde qui est le nôtre au sens banal du terme. Ça a un sens très précis. Ça représente ce monde lorsqu'il se ferme à la grâce, lorsqu'il se ferme au projet de Dieu. Donc, c'est une expression qui est péjorative. Voilà. C'est un petit peu, si vous voulez, pour faire une analogie, analogue à l'expression chez saint Paul, l'expression « la chair ». Normalement, le mot « chair » n'a pas de sens péjoratif, hein, mais lorsque saint Paul emploie l'expression « la chair », ça prend une connotation péjorative, c'est-à-dire c'est la personne humaine tout entière lorsqu'elle ne s'ouvre pas à la grâce. Donc le monde, ce serait un petit peu l'équivalent de ça. Donc il faut faire attention quand on est chrétien, pour les quelques-uns d'entre vous qui peut-être le sont, je n'en sais rien, je n'ai pas à le savoir. Il faut faire attention lorsqu'on emploie l'expression « le monde ». Moi, j'ai des amis chrétiens qui parfois disent « mais ça, c'est l'esprit du monde ». Mais bon, qu'est-ce qu'ils entendent par là, quoi ? Bon, voilà. Parce que si on en tire l'idée que ce monde dans lequel nous vivons est mauvais, entièrement livré aux mains de Satan, on fait un grave contresens sur l'Évangile. Il est vrai que dans l'Évangile, on est toujours dans le paradoxe. Jésus dit le royaume est parmi vous. Alors, pourquoi je parle brutalement du royaume ? Parce que précisément, le contraire du monde, hein, au sens du refus de la grâce, le contraire du monde, c'est le royaume. Et lorsque Jésus dit le royaume est parmi vous, ou le royaume est en vous, c'est une expression qui nous donne à penser que, avec lui, quelque chose d'irréversible est planté, hein, dans l'histoire de l'histoire de notre monde. Et en même temps, Jésus dit « mon royaume n'est pas de ce monde ». D'accord ? Donc le royaume est à la fois dans le monde, il n'est pas de ce monde. Donc vous voyez qu'on est toujours dans une tension. Il est là, mais il n'est pas complètement là. Il est là, mais il est d'ailleurs. Voilà. Et ce qui vaut pour le royaume vaut pour le croyant uni au Christ, hein, puisque Jésus lui dit dans saint Jean, donc, « vous êtes dans le monde, hein, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde, vous n'êtes pas de ce monde ». Voilà. Donc vous voyez l'ambiguïté de cette expression « être chrétien dans un monde hein, qu'il ne l'est pas ». Je voudrais introduire commencer cette réflexion par un texte que vous connaissez peut-être déjà, donc ce sera l'avantage que vous le redécouvrirez, et pour ceux qui ne le connaissent pas, il y aura eu au moins quelque chose de positif dans votre vie ce soir, puisque c'est un texte incontournable, c'est la fameuse lettre à Diognète, hein, une lettre du 3e siècle, qui est admirable, y compris dans son style, qui nous décrit les premières communautés chrétiennes et comment vivaient les chrétiens dans la société païenne. Et donc l'auteur observe la vie des chrétiens dans la société païenne et tend à dire que de par certains côtés, les chrétiens ne se distinguent en rien du tout de cette société dans laquelle ils vivent. Et pourtant, d'une certaine façon, ils sont tout autres. Alors je vous propose qu'on fasse cette lecture ensemble. Vous avez le texte au verso, sous vos yeux. Ce sont des extraits. Mais le texte complet se trouve très facilement. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire. Leur genre de vie n'a rien de singulier. Ce n'est pas à l'imagination, aux rêveries d'esprit agité que leur doctrine doit sa découverte. Ils ne se font pas comme tant d'autres les champions d'une doctrine humaine. Ils se répartissent dans les cités grecques et barbares, suivant le lot échu à chacun. Ils se conforment aux usages locaux pour les vêtements, la nourriture, la manière de vivre, tout en manifestant les lois extraordinaires et vraiment paradoxales de leur république spirituelle. Ah, donc on nous annonce un paradoxe. Pour l'instant, rien ne les distingue et pourtant, quelque chose comme un paradoxe va surgir. Ils résident chacun dans sa propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Le royaume n'est pas de ce monde. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers. Toute terre étrangère leur est une patrie et toute patrie leur est une terre étrangère. Ils boitent. Ils se marient comme tout le monde, ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Alors ça, c'est allusion à la pratique romaine de l'exposition des enfants dont on ne veut pas. On s'en débarrasse en les exposant. Si quelqu'un les prend, tant mieux, sinon. Bon. Ils partagent tous la même table, mais non la même couche. Ils sont donc dans la chair, mais ne vivent pas selon la chair. Ils passent leur vie sur la terre, mais sont citoyens du ciel. Ils obéissent aux lois établies, et leur manière de vivre l'emporte en perfection sur ces lois. Ils aiment tous les hommes, et tous les persécutent. On les méconnaît, on les condamne, on les tue, et par là, ils gagnent la vie. Ils sont pauvres, et enrichissent un grand nombre. Ils manquent de tout, et ils surabondent de toutes choses. On les méprise et dans ce mépris, ils trouvent la gloire. Et à ce moment-là, l'auteur va trouver une image synthétique formidable pour désigner cette situation étrange du chrétien et de l'Église dans le monde. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Ce que l'âme est dans le corps, les chrétiens le sont dans le monde. Les chrétiens, au fond, sont appelés à devenir l'âme du monde. L'âme est répandue dans tous les membres du corps, comme les chrétiens, dans les cités du monde. L'âme habite dans le corps et pourtant elle n'est pas du corps, comme les chrétiens habitent dans le monde mais ne sont pas du monde. Invisible, l'âme est retenue prisonnière dans un corps visible. Ainsi les chrétiens. On voit bien qu'ils sont dans le monde, mais le culte qu'ils rendent à Dieu demeure invisible. La chair déteste l'âme et lui fait la guerre, sans avoir reçu de tort, parce qu'elle l'empêche de jouir des plaisirs. De même, le monde déteste les chrétiens, qui ne lui font aucun mal, aucun tort, parce qu'ils s'opposent à ses plaisirs. L'âme aime cette chair, qui la déteste, c'est très important. C'est-à-dire que le chrétien doit aimer le monde qu'il déteste. Bon. Et ses membres, comme les chrétiens, aiment ceux qui les détestent. L'âme est enfermée dans le corps, c'est elle pourtant qui maintient le corps. Les chrétiens sont comme détenus dans la prison du monde, ce sont eux pourtant qui maintiennent le monde. Donc vous voyez, il n'y a pas l'idée de fuite du monde. Il faut être là pour animer ce monde et l'aimer même si le monde ne nous aime pas. Immortelle, l'âme habite dans une tente mortelle, ainsi les chrétiens campent dans le corruptible en attendant l'incorruptibilité. L'âme devient meilleure en se mortifiant par la faim et la soif. Persécutés, les chrétiens de jour en jour se multiplient toujours plus. Si noble est le poste que Dieu leur a assigné, qu'il ne leur ait pas permis de le déserter. Donc la position du chrétien dans le monde est une position noble. Voilà, même si elle est sujette à des contradictions et même à des persécutions. Alors vous voyez, c'est un texte extraordinaire, parce que c'est vraiment un texte sur l'incarnation. La foi chrétienne est le christianisme, la religion de l'incarnation, de ce Dieu invisible et incorruptible qui devient chair. Et le chrétien dans le monde vit quelque chose d'analogue. Alors il y aura deux parties dans ce propos. première partie, je dirais, plutôt centrée sur le point de vue, disons, individuel du chrétien dans sa vie chrétienne et dans son rapport au monde. Et une deuxième partie, plus communautaire, c'est-à-dire le chrétien dans l'Église et l'Église dans le monde. Vous voyez, un point de vue un petit peu plus individuel, un point de vue plus communautaire, hein, même si, évidemment, on ne peut pas séparer vraiment les deux. Voilà. Et puis, j'aimerais avoir un peu de temps pour conclure sur la question du sens de l'histoire. L'histoire a-t-elle un sens pour un chrétien ? Première partie, donc, que je résumerai par ce titre, hein, une spiritualité de l'incarnation. Premier point, donc, la vie chrétienne, la vie du chrétien qui essaye de vivre sa foi un peu sérieusement, c'est une vie qui est comme en palpitation, en respiration entre contemplation et action. Un chrétien est quelqu'un qui contemple, quelqu'un qui connaît, qui cherche la prière, l'oraison dont on a parlé dans une dernière intervention. Et pourtant, cette prière, cette oraison, sans cesse le renvoie au monde, le renvoie à son devoir de charité. Et donc, de la contemplation naît l'action. Et l'action a besoin de se ressourcer dans la contemplation. Ce sont des choses bien, bien évidentes, sans doute, que je rappelle là. Charles Péguy, qui sera un peu mon guide ce soir, au moins pour une part de cet exposé, a des expressions merveilleuses, puisque Péguy, vous le savez, est notre grand poète et notre grand prophète de l'incarnation, c'est-à-dire de la situation charnelle, de la condition charnelle du chrétien. Péguy dit « Le corps et l'âme sont comme deux mains jointes ». Le corps, sous-entendu, voilà, la vie dans le monde, l'engagement, le travail, la lutte pour la cité plus juste. Et puis l'âme, c'est ce qui est réservé à Dieu, c'est la contemplation, c'est la prière. Et Péguy nous dit, surtout ne pas opposer l'action et la contemplation. Surtout ne pas les opposer, parce que le propre de la foi chrétienne, c'est au contraire de les articuler. Donc si on les oppose, on est en dehors. Voilà. Le corps et l'âme sont comme deux mains jointes. Alors du coup, on est toujours dans des tensions, hein, et la vie chrétienne va subir deux types de tentations, hein, deux types d'écueils. D'un côté, ce qu'on pourrait appeler le spiritualisme désincarné, hein, fuir le monde. Le monde, il est bien salissant. Bon, il n'y a qu'à voir tout ce qui se passe. Et du coup, on sera tenté, comme croyant, de se réfugier ou de se protéger dans la prière, dans la contemplation, dans les retraites, que sais-je. C'est le spiritualisme qui oublie que notre condition est une condition incarnée. Si nous devons être l'âme du monde, il faut être dans ce monde et même l'aimer. Mais l'autre écueil asymétrique, c'est bien sûr l'écueil de l'activisme, hein, du chrétien engagé dans un tas d'œuvres et dans un tas de combats et qui sont évidemment urgents, et ce n'est pas Péguy qui nous dira le contraire, lui qui s'est battu toute sa vie, mais dont la vie profonde va se dessécher, hein, voire se désespérer dans des combats trop lourds. Et là, je parle de choses très concrètes. Je pense qu'un tout chrétien un peu engagé est passé par ces phases de désert où, en quelque sorte, il découvre ses limites, hein, et il découvre que peut-être, faute d'avoir assez prié, hein, son activité se dessèche et finalement, donc, il est menacé par la tentation du désespoir, hein, du « à quoi bon ?». Alors voyez, deux tentations, l'activisme d'un côté, le spiritualisme désincarné de l'autre. Alors, puisque j'ai annoncé Péguy quand même, pour insister sur cette condition incarnée et charnelle, je vous lis un passage très méchant de Péguy sur certains chrétiens de son temps. « Parce qu'ils n'ont pas la force d'être de la nature, ils croient qu'ils sont de la grâce. Parce qu'ils n'ont pas le courage temporel, ils croient qu'ils sont entrés dans la pénétration de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas le courage d'être du monde, ils croient qu'ils sont de Dieu. Parce qu'ils n'aiment personne, ils croient qu'ils aiment Dieu. » Et Péguy conclut, « Mais Jésus-Christ même a été de l'homme. » Vous voyez ici ce que Péguy dénonce, c'est la tentation du spirituel désincarné. Et Péguy va nous dire, à travers tous ses grands poèmes, hein, et en particulier le dernier de tous, Ève, un immense poème de je ne sais plus combien de milliers de quatrains, que le spirituel est lui-même charnel. Ça, c'est une formule merveilleuse de Peggy, au cœur de son poème Ève, le spirituel est lui-même charnel. Et vous l'aurez voulu, je vous lis, quatre quatrains d'Ève. Car le surnaturel est lui-même charnel, et l'arbre de la grâce est raciné profond, et plonge dans le sol et cherche jusqu'au fond, et l'arbre de la race est lui-même éternel. Et l'éternité même est dans le temporel, et l'arbre de la grâce est raciné profond, et plonge dans le sol et touche jusqu'au fond, et le temps est lui-même un temps intemporel. Et l'arbre de la grâce et l'arbre de nature ont lié leurs deux troncs de nœuds si solennels, ils ont tant confondu leur destin fraternel que c'est la même essence et la même stature. Et l'arbre de la grâce et l'arbre de nature se sont liés tous deux de nœuds si fraternels qu'ils sont tous les deux âmes et tous les deux charnels, et tous les deux carènes et tous les deux matures. Voilà, bon, c'est un très très long poème, je m'arrête là, mais retenez, car le surnaturel est lui-même charnel. Voilà, la vie de la foi se joue dans les médiations charnelles, temporelles, concrètes de nos humbles vies, de notre quotidien. N'allons pas à Jérusalem pour vivre notre foi, il faut la vivre ici et maintenant. Bon, on peut aller à Jérusalem aussi, hein. C'est pas interdit. Voilà. Alors maintenant, j'approfondis un petit peu cette spiritualité de l'incarnation. Dans la vie chrétienne, nous vivons cette vie chrétienne à travers ce que l'on peut appeler des médiations. Alors voilà un mot qui peut-être sonne un peu bizarre à vos oreilles, et c'est pourtant un mot important du vocabulaire spirituel. Qu'est-ce qu'on appelle des médiations ? Eh bien, les médiations, ça veut dire l'intermédiaire par lequel. Les médiations, c'est tout ce qui, dans nos vies, constitue le lieu d'incarnation de notre foi. Notre foi se joue dans des médiations qui sont innombrables, et chacun peut faire une liste de ces médiations qui lui paraissent les plus importantes, parce que notre foi, si c'est une foi incarnée, se joue à travers des réalités qui sont des réalités, alors soit des réalités créées, je vais en donner quelques exemples, soit des réalités donc surnaturelles, je vais en donner d'autres exemples. Alors, commençons, si vous voulez, par les médiations de type, bon, disons surnaturelles. Celles qui viennent en quelque sorte de Dieu. D'une certaine façon, tout vient de Dieu. Mais... Alors, l'Église, par exemple, est une médiation surnaturelle. Les sacrements. La foi chrétienne, la foi catholique en particulier, se vit dans des sacrements. Il est très important que ces sacrements soient concrets, charnels. L'Eucharistie, c'est charnel, puisque c'est le corps du Christ. Bon. Alors, les sacrements. La parole de Dieu, bien sûr, dont on a beaucoup parlé, qui est une médiation à travers laquelle nous pouvons vivre notre foi. La prière, bien sûr. Et puis, ce qu'on pourrait appeler des médiations naturelles, la distinction entre les deux là n'est pas très juste, parce que la prière, c'est quelque chose de très naturel aussi. Anthropologiquement, l'homme est fait pour adorer. Bon. Mais enfin, médiation naturelle, eh bien, toutes nos dispositions physiques, psychologiques, intellectuel. Par exemple, je vis ma foi dans une psychologie. Ma psychologie, quelle qu'elle soit, est une médiation de ma vie chrétienne. D'accord ? Je vis ma foi dans mon corps. Quand je me mets à genoux, mon corps participe à ma vie de foi. Je vis ma foi avec mon intelligence. Je recherche la vérité, je recherche à comprendre. L'intelligence est une médiation. Mais il y a bien d'autres médiations naturelles. La plus évidente, c'est tout simplement les autres. Mes proches, mes amis, mes ennemis, ma famille, mes collègues. Telle personnalité qui a joué un grand rôle dans ma vie. Quand on dit « un tel, pour moi, ça a été un médiateur », voyez ? Je ne sais pas, moi, un prêtre, quelqu'un, un maître, quelqu'un qui nous a marqués, il a joué le rôle de médiateur dans notre foi. D'autres médiations, la nature, pour certains, la contemplation de la beauté du monde joue un rôle important dans leur foi. D'autres médiations, la culture, l'art, la beauté. Pour d'autres, contempler une œuvre d'art, lire un poème de Peggy, est un acte spirituel, et charnel d'ailleurs, qui joue un rôle dans sa vie de foi. Un groupe, une communauté, un projet, enfin voilà. Donc vous voyez, en fait, tout est médiation. Et dire, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, hein, je ne sais pas, mais dire que la foi chrétienne est une foi incarnée, c'est la même chose que de dire qu'elle se joue dans des médiations. Bon. Alors vous allez me dire, bon, bah oui, d'accord, et alors ? Et donc maintenant, je voudrais arriver à souligner la grande chance que sont les médiations pour le chrétien et le grand risque que sont les médiations. Il y a une profonde ambiguïté des médiations. Pourquoi il y a une ambiguïté des médiations ? Parce que d'un côté, elles sont bonnes. Et en soi, elles sont bonnes. Qu'elles soient créées par Dieu, enfin, je sais pas, la nature est bonne. La nature est bonne. Bon. La beauté, c'est bon. La beauté fait signe vers le spirituel, fait signe vers le sacré. La beauté est bonne. Le corps est bon. Contrairement à d'autres traditions spirituelles dans le christianisme, le corps est bon. L'intelligence, c'est bon. C'est un des dons de Dieu les plus précieux. Donc toutes les médiations sont bonnes. Et bien entendu, les médiations sacramentelles, la parole de Dieu. Bon. Mais, toute médiation peut devenir une idole. Toute médiation peut devenir une idole. Et donc, voilà le grand risque des médiations, c'est que les médiations ne sont pas exemptes, en tout cas peuvent être contaminées par le péché, et au lieu d'être ce que l'on va appeler des icônes, c'est-à-dire des chemins vers Dieu, elles peuvent devenir le contraire d'une icône, c'est-à-dire une idole. Et là, j'arrive à cette belle distinction spirituelle qui est pour moi si éclairante entre l'icône et l'idole. Qu'est-ce que c'est qu'une icône ? Je parle pas, bien sûr, je parle de l'icône au sens général et spirituel, hein, je ne parle pas des tableaux grecs et orthodoxes ou des icônes byzantines. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une icône ? C'est une image qui renvoie à plus grand qu'elle. C'est une image qui me parle de plus qu'elle. Lorsque je contemple une icône orthodoxe, je dois la contempler non pas du tout comme une œuvre d'art, surtout pas, avec un point de vue d'esthète, en disant « Ah, c'est intéressant ». Non, l'icône, elle est faite pour me parler de Dieu, elle est faite pour me renvoyer à plus loin qu'elle. Elle ouvre sur l'infini, d'où d'ailleurs la perspective inversée des icônes byzantines. L'icône, c'est un chemin vers Dieu. Donc l'icône doit toujours être dépassée. L'icône est faite pour être dépassée. Et si l'icône se referme sur elle-même, elle devient une idole. Qu'est-ce que c'est qu'une idole ? C'est quelque chose que je vais sacraliser et qui va finir par m'enfermer, qui va finir par m'asservir. Vous voyez la différence entre l'icône et l'idole ? Ça va ? Ouais. Bon, je vais prendre des exemples. Je vais prendre des exemples. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont les mêmes réalités qui peuvent tour à tour être icônes et idoles. Et c'est bien ça qui est compliqué dans la vie spirituelle. Telle réalité qui pour moi a été un vrai chemin vers Dieu s'avère à un moment ou à un autre, tout à coup, me renfermer sur moi-même. Et sans m'en rendre compte, je suis passé d'un regard contemplatif à un regard idolâtrique. On va prendre des exemples. Et puis, le drame de tout ça, enfin, ce qui est encore le plus aigu, c'est que plus une réalité est précieuse, plus elle est vulnérable et susceptible d'être idolâtrée. Voilà pourquoi c'est toujours les réalités les plus précieuses qui sont les plus idolâtrées. Voilà. Quand le sauvage de Papouasie adore, dit-on, un bout de bois, c'est pas grave. D'ailleurs, qui peut dire s'il est dans une relation vraiment idolâtrique ? Mais quand un immense théologien en vient à vénérer sa propre intelligence, là c'est très grave. Parce que là on est vraiment dans une forme d'orgueil, et d'un orgueil relativement éclairé, voyez, où ce qui devrait être un chemin vers Dieu devient un piège qui se referme et devient donc une idolâtrie. Donc plus une réalité est précieuse, plus elle est vulnérable à l'idolâtrie. Alors prenons quelques exemples si vous voulez. Prenons par exemple, pour commencer, bon, prenons un exemple vraiment simple, je commence par des choses un peu primaires, le travail. Le travail, comme chacun sait, est une réalité bonne, puisque dans la Genèse, finalement, le travail apparaît non pas au moment de la faute, comme on dit trop vite, mais le travail apparaît dans la capacité qu'a l'homme d'inscrire sa marque dans la création, hein, et même de prolonger l'acte créateur. L'homme est ce jardinier hein, qui doit donner sens à un monde qui n'est pas encore complètement achevé. Le travail, c'est le signe même de la liberté de l'homme, c'est le signe même de sa dignité, c'est le signe même de sa coopération avec l'œuvre créatrice. Donc le travail est une formidable icône hein, du rapport de l'homme à la création et du rapport de l'homme à Dieu. Mais nous le savons, le travail peut devenir une idole asservissante par laquelle les hommes s'asservissent les uns les autres, parfois même par lesquels je m'asservis moi-même tout seul comme un grand, hein, si je suis dans une relation de fascination, si le travail ne me parle plus de l'œuvre de Dieu, mais ne me parle plus que de mon empreinte, hein, de ma propre marque. Donc voilà un exemple assez simple. Je prends un deuxième exemple, l'exemple de l'art. Vous savez, il y a une célèbre formule de Dostoïevski dans L'Idiot, roman écrit à Florence, c'est pas par hasard, où cette formule est la suivante, la beauté sauvera le monde. C'est une formule qui est très équivoque. Dans une perspective spirituelle, et Dostoïevski est orthodoxe, donc il est pétri de cette perspective spirituelle et ce regard sur le monde, un regard qui sanctifie, elle est très juste. C'est-à-dire que la beauté fait signe vers Dieu. La beauté d'un paysage, la beauté d'un visage, la beauté d'un enfant, la beauté d'un tableau, fait signe vers plus grand qu'elle. Elle fait signe vers cette soif d'absolu qui est en moi et qui me parle de Dieu. Vous voyez ? Et donc la beauté peut vraiment être un chemin vers Dieu. Et elle l'est sans doute souvent. D'où la soigner la liturgie, etc. Bon. Mais la beauté peut devenir une idole narcissique lorsque je deviens l'esthète hein, qui cultive finalement la sensation du beau, hein, qui accumule les expériences du beau, hein, fréquentant toutes les expositions du monde, et où finalement cette beauté ne me parle plus d'autre chose que d'elle-même. Elle ne m'ouvre plus à celui qui est l'infinie beauté. Alors, quand est-ce qu'on s'aperçoit qu'on est dans l'idolâtrie ? Lorsque la beauté nous déçoit, et c'est l'expérience de la tristesse. Il y a, par exemple, chez les poètes maudits, chez un Rimbaud, par exemple, ou chez d'autres, il y a souvent... Camus, alors vraiment, il y a des textes superbes de Camus à Florence. Camus qui visite Florence, c'est dans Noces, je crois, je ne suis plus très sûr. Où Camus contemple toutes ces beautés accumulées de l'art, des églises, des petits cloîtres, des tableaux, etc. Et il conclut en disant finalement la beauté n'est qu'un commentaire de la tristesse. Et pourquoi il dit ça ? Parce que toute cette beauté qui nous donnerait le désir de Dieu, je sais aussi que Dieu n'existe pas. Camus est athée. Et donc voilà une beauté qui parle d'un ailleurs qui n'existe pas. Et cette beauté nous rend profondément tristes, voyez ? C'est très beau parce que chez Camus, c'est dit avec beaucoup de droiture, quoi, de clairvoyance. Mais voyez ce que je veux dire, c'est que l'expérience esthétique peut être ouverture vers le divin, vers l'absolu. Elle peut être fermeture sur moi-même et profondément désespérante. C'est toute l'ambivalence de l'art. Et l'art pour l'art est peut-être une idole, enfin est certainement une idole, l'art pour l'art. C'est-à-dire l'art qui ne montre rien que lui-même. Donc voilà pour cet exemple de la beauté, hein, de l'expérience de la beauté. Autre exemple, très simple, un témoin, un maître, qui de nous n'a pas, enfin j'espère en tout cas, la chance de se dire, ben, moi j'ai quand même vraiment beaucoup reçu de telle personne, voilà. Comme je disais tout à l'heure, peut-être un religieux, un enseignant, un proche, un ami, un parrain. Bon. Quelqu'un qui pour moi a joué un très grand rôle dans ma vie. À un moment donné, il a ouvert des horizons. Il m'a redonné une espérance, il m'a redonné une confiance. Il m'a ouvert à la vérité. Vous voyez, bon, on a tous ça. Bon. Ce sont des médiations. C'est une médiation qui est infiniment précieuse. Et il faut vraiment se dire que Dieu nous confie les uns aux autres pour que nous soyons des médiateurs les uns pour les autres. Donc, c'est merveilleux. Bon. Et pourtant, combien de dérives idolâtriques peuvent surgir dans ce rapport d'admiration qui peut devenir un rapport de fascination ? Combien on a vu de gens, de grands spirituels vénérés de leur vivant et s'avérer finalement décevants ? Je ne fais pas d'allusion, je ne fais pas de polémique, ce n'est vraiment pas le problème. J'essaie de comprendre spirituellement les choses. Si quelqu'un, à un moment dans ma vie, m'a ouvert le chemin de Dieu, je dois lui en être infiniment reconnaissant, mais il n'est pas Dieu. C'est un chemin que j'emprunte, c'est un chemin que j'oublie, que je dois dépasser. Si je m'arrête à cette relation de fascination, je suis dans l'idolâtrie. Quand bien même la personne est un saint, hein, c'est pas le problème. Je suis dans l'idolâtrie et il ne me montre plus Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a le dicton que tout le monde connaît, quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. On est tous un peu comme ça. Oh, tel type, alors vraiment formidable, on peut compter sur lui, il a tout compris. Bon. C'est pas, voilà. Attention à la pente idolâtrique qu'est cette merveilleuse médiation des autres. Hein? Voilà. On pourrait prendre d'autres exemples. J'ai noté par exemple la sexualité, hein, qui est une réalité, on l'a tellement dit avec la Genèse, une réalité tellement précieuse par sa fécondité, par tout ce qu'elle engage de la personne humaine dans toutes ses dimensions, parce qu'elle engage de la relation, etc. Bon, parce qu'elle me montre aussi de difficultés du rapport avec l'autre, et qu'elle me parle aussi de Dieu dans cette difficulté. Hein, dans le texte de la Genèse, la relation homme-femme est une relation qui, dans sa difficulté, pointe vers la relation, enfin, dit quelque chose de la relation de l'homme à Dieu. Bon, enfin, voilà, la sexualité est une médiation précieuse, riche et comme toute médiation précieuse, à quel point elle est défigurée, idolâtrée, pervertie, dévoyée. Et elle peut devenir une idolâtrie très enfermante. On pourrait prendre d'autres exemples, et l'exemple suprême, au fond, ça serait d'une certaine façon l'Église. Mais ce sera justement l'objet, d'une certaine façon, de la deuxième partie. Mais voyez, je termine cette partie, je résume cette partie en disant la foi chrétienne, qui est une foi dans la condition charnelle incarnée de la personne, est donc une foi qui se joue à travers des médiations. Or, toute médiation est à la fois précieuse et à la fois vulnérable. Toute médiation est à la fois est à la fois icône, et d'abord icône qui peut devenir idole. Mais vous remarquez que ce qui l'a fait icône ou ce qui l'a fait idole, c'est le regard que je porte sur elle. La Trinité de Roublov, l'icône de la Trinité de Roublov peut devenir une idole pour amateur d'art. C'est tout est dans le regard que je porte sur cette chose. D'où la nécessité de purifier sans cesse notre regard sur les choses et sur toutes ces médiations. Fin de la première partie. Donc, maintenant. Alors, vous voyez, jusque-là, donc, dans cette première partie, j'ai développé le point de vue plus individuel, hein, du croyant dans sa vie personnelle de croyant. Mais bien entendu, c'est une abstraction un petit peu monstrueuse, puisque si la condition croyante est une condition incarnée, elle est aussi une condition communautaire. Et donc, il est bien évident que notre foi se joue en communauté, en relation avec d'autres, et c'est ce mystère de relationnel, hein, qui constitue l'Église. ce mystère relationnel qui constitue l'Église. Et donc l'Église est, d'une certaine façon, la médiation fondamentale qui porte toutes les autres. Or, il va se poser la question du rapport de l'Église, justement, et du monde. Le rapport de l'Église et de la société, par exemple. Voilà. Alors, on n'a pas beaucoup parlé de l'Église au cours de ces 10 séances, donc c'est peut-être l'occasion de dire un tout petit mot. Il y a deux manières de regarder l'Église. Il y a une manière extérieure, sociologique, quantitative, qui consiste à recenser le nombre de gens qui seraient catholiques, baptisés, et à faire des statistiques. Assimiler l'Église à son personnel, comme dirait Jacques Maritain, sa hiérarchie, son histoire, et s'arrêter à cette apparence extérieure. Non pas qu'elle n'existe pas, elle fait bien partie de sa condition charnelle, incarnée. Mais il y a tout de même une façon autre de regarder l'Église, qui est de la regarder comme un mystère, comme le mystère de la présence même du Christ dans l'histoire des hommes. Et donc le Concile Vatican II, ça va être mon autre grande référence pour cette partie, a beaucoup approfondi le mystère de l'Église, c'est-à-dire l'Église comme mystère. Alors pourquoi parler de l'Église comme mystère ? Parce que d'une certaine façon, nous ne savons pas où est l'Église. Si, nous savons où elle est, on peut dire que l'Église, elle est son cœur, son centre, c'est l'Eucharistie, ce sont les sacrements et en particulier la présence du Christ dans l'Eucharistie. C'est là que l'Église, le Concile Vatican II, dit la source et le sommet de l'Église. Je ne sais plus l'expression exacte, d'ailleurs, ce n'est pas exactement ça, mais source et sommet de la vie chrétienne. Voilà. Donc on sait où est l'Église, mais on ne sait pas où elle n'est pas. C'est-à-dire que l'Église est une réalité mystérieuse dont les limites, au fond, nous échappent. Ce n'est pas le Concile Vatican II qui a inventé ça. Saint Augustin, dans la Cité de Dieu, le dit déjà très clairement. Saint Augustin dit dans tel persécuteur de l'Église, tel persécuteur de l'Église est peut-être en puissance un membre de l'Église, alors que tel chrétien reconnu et estampillé est peut-être mystérieusement hors de l'Église. Le cardinal Journet, donc, est une grande figure théologique du XXe siècle, qui a beaucoup approfondi le mystère de l'Église, dit qu'au fond, les limites de l'Église nous échappent parce qu'elles traversent le cœur de chacun, de chaque homme. En chaque homme, il y a quelque chose d'uni au Christ et il y a quelque chose qui résiste à la grâce. Au fond, en chaque homme, il y a le royaume et le monde qui se disputent le terrain. Et donc, vous voyez, ça donne une conception de l'Église beaucoup plus fine, qui consiste à ne pas trop vite compter les troupes, et à se dire que mystérieusement, tel incroyant, notoire, peut être uni au Christ sans même qu'il le sache. Dans tout geste de bonté, il y a quelque chose de Dieu. Voilà. Donc voilà pour dire un tout petit mot, évidemment trop rapide, sur l'Église comme mystère, dont la frontière reste mystérieuse et traverse le cœur de chacun. Mais maintenant, il faut tout de même parler du rapport de l'Église au monde. Alors, sujet évidemment délicat, puisque le chrétien boite dans le monde, l'Église d'une certaine façon elle-même boite dans son rapport au monde. Et c'est toujours compliqué, chaque époque a ses tentations. Il appartient aux historiens de les décrypter. Mais on pourrait dire, pour être un tout petit peu schématique, qu'il y aurait, vous voyez, dans le rapport de l'Église au monde, trois grandes tentations. Trois écueils, à nouveau. Alors, le premier écueil, ce serait la tentation théocratique. C'est-à-dire qu'au fond, l'Église va annexer le monde dans tous ses rouages et dans tout son fonctionnement, même le plus profane, le plus civil, pour organiser la cité conformément à ce qu'elle croit être le plan de Dieu. Et c'est la grande tentation théocratique qui a plus ou moins travaillé le christianisme selon les époques. Il faut pas trop la, enfin, il faut pas trop la majorer quand même, parce qu'on voit bien, si on prend ne serait-ce que l'Église dans l'Occident, on voit qu'entre la monarchie et le pouvoir ecclésial, il y a toujours eu des tensions, jusqu'à ce que Philippe le Bel laïcise au maximum le fonctionnement du royaume. Il y a toujours eu des tensions, et c'est très bien, parce que l'Église doit renoncer à cette tentation théocratique. On n'est pas dans la justesse de l'incarnation, et je le préciserai tout à l'heure. Tentation théocratique qui, me semble-t-il, est une tentation révolue. Une deuxième tentation qui a été en quelque sorte la réaction en sens inverse de la tentation théocratique, ce serait la tentation de la sécularisation. C'est-à-dire, au fond, l'Église doit passer incognito dans le monde. Profil bas, dilution, on est dans le monde, mais on y est tellement caché, en quelque sorte, que plus rien ne dépasse. Et finalement, on se demande encore un petit peu si on a quelque chose d'autre à apporter que ce que le monde connaît déjà. Cela a pu être, là encore il ne faut pas non plus trop schématiser parce que forcément on caricature, ça a pu être une certaine tentation post-conciliaire justement, de l'enfouissement, de l'Église, souvent dans une volonté d'ailleurs très juste d'être avec les pauvres, et réjouissons-nous que nous ayons un pape qui nous entraîne aussi dans cette direction, enfin cette direction non pas de la dilution mais de la présence évangélique aux pauvres. Mais c'est tout de même une tentation de la sécularisation. Il existe une troisième tentation qu'on pourrait appeler la tentation du communautarisme, c'est un peu à la mode, appelons-la la tentation du retranchement, c'est-à-dire au fond, le monde nous paraît bien corrompu et il n'y a plus rien à faire pour ce pauvre monde et donc on va se retrancher dans des petit bastion de chrétienté, de micro-chrétienté, puisque la grande chrétienté, ça ne marche pas. On va faire des micro-chrétientés où on pourra se tenir chaud et, ma foi, avancer tant bien que mal vers le royaume. C'est une autre forme d'hérésie chrétienne, une fuite dans le spirituel, donc, comme j'en parlais au début. Alors, maintenant que j'ai décrit trois grandes tentations, on va essayer de trouver moyen d'en sortir pour ajuster quelque chose, un rapport qui soit plus conforme à l'incarnation. Quel est le juste rapport, enfin, comment dire le moins mal possible, je ne suis pas vraiment sûr d'y arriver très bien d'ailleurs, c'est vraiment difficile, mais comment dire le juste rapport, le meilleur rapport, le plus juste possible, entre les réalités, disons, temporelles, la politique, il faut être concret, la politique, l'hôpital, l'école, l'art, la culture, bon, les réalités temporelles et les réalités spirituelles et le royaume, finalement, tel qu'il croit, tel qu'il grandit dans notre monde. Alors, je vais essayer de dire les choses d'une manière un petit peu balancée. Donc, forcément, ça va être en plusieurs temps qui vont se compléter progressivement et s'équilibrer, je l'espère. Donc, le premier temps, c'est de, et ça c'est typiquement chrétien, ça n'existe pas vraiment dans l'islam en particulier, c'est ce que l'on appelle la juste autonomie des réalités temporelles. C'est-à-dire reconnaître la juste autonomie des réalités temporelles. Il y a des réalités temporelles qui peuvent fonctionner, je dirais, par leur logique propre, et qui d'une certaine façon n'ont pas besoin d'être prise en charge, assumée par l'Église ou par une institution religieuse. Je cite la science. Pas besoin d'être chrétien pour être un très grand physicien, même s'il y a eu des très grands physiciens chrétiens. Le critère de la bonne physique ou des bonnes mathématiques ne se joue pas sur un plan de la foi. Je ne suis pas en train de dire que la science ne pose pas de questions aux croyants ou à l'incroyant. Il y a un dialogue qui est possible. Je n'en parle pas, ce n'est pas le sujet du jour. Mais il y a une autonomie de la science par rapport à la foi, aux réalités spirituelles, qu'il s'agit de bien respecter. L'art, c'est un petit peu la même chose. qu'il y ait des artistes croyants, et surtout quand ils sont de grands artistes, c'est une grande chance pour l'Église et pour les chrétiens. Mais il y a de grands artistes incroyants, et leur génie, et encore peut-on le dire, mais en tout cas leur génie, consciemment, ne se ressource pas à la foi. On peut même en dire autant de l'ordre politique, hein, qui, d'une certaine façon, et ça, ça était plus difficile à accepter dans l'histoire de l'Église, qui d'une certaine façon a sa consistance propre, a sa cohérence propre, et il n'est pas vraiment sûr que ce soit une bonne chose qu'il soit pris en charge par l'institution ecclésiale. D'ailleurs, même dans une époque récente, toutes les démocraties chrétiennes, enfin, ça, voilà, ça n'a pas toujours été un très grand succès, quoi. Donc on voit bien qu'il y a des difficultés, même dans des formes quand même très nuancées que sont les démocraties chrétiennes, parce que ce n'est pas l'Église qui régente la démocratie chrétienne. Bon, ce sont des chrétiens en politique, mais c'est déjà compliqué. Donc il y a une juste autonomie à respecter. Et de ce point de vue-là, il faut faire un rappel historique. Quand bien même l'Église a pu, ça et là, s'opposer à cette autonomie, ou en tout cas la freiner, cette autonomie vient du christianisme. C'est le christianisme qui a permis l'émergence d'un art profane. Dans l'islam ou dans l'hindouisme, où l'art est toujours un art sacré. D'ailleurs, il n'y a pas d'art, il y a de la piété. La notion d'un art autonome, d'un art profane, vient du christianisme. Pourquoi ? Parce que ça vient de l'idée de l'incarnation. C'est quoi l'idée de l'incarnation ? C'est de dire que Jésus-Christ se laisse voir pas seulement dans l'icône de la Trinité de Roublev, mais aussi dans le visage buriné et abîmé d'un paysan auvergnat. Qu'un autoportrait de Van Gogh dit quelque chose du sacré, autant qu'une image de la Vierge Marie. Ça vient du christianisme. Le christianisme, en fait, a rendu possible un art profane à cause de la dignité de la création. Cette création fait signe vers Dieu, et donc toute chose, au fond, on pourrait dire toute chose à valeur d'icône, justement. Donc c'est bien en chrétienté qu'est né l'art profane. Il est né à la Renaissance, hein, mais il n'est pas né, contrairement à ce qu'on raconte parfois, d'une lutte contre un pouvoir clérical ou que sais-je. Il est né chez Giotto, il est né chez Fra Angelico, il est né chez des gens qui étaient des chrétiens. Rembrandt, c'est vraiment l'exemple type. Il n'y a pas plus chrétien que Rembrandt. Et Rembrandt, c'est vraiment l'art, d'une certaine façon, le plus profane qui existe. Quand Rembrandt représente sa vieille mère toute burinée, couverte de rides, c'est une vraie icône. Et c'est du profane. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. C'est le christianisme qui a permis l'émergence d'une science profane. Parce que, bon, c'est un autre sujet, mais parce que le fait que l'homme soit le berger de la création, que l'homme soit en position d'interprète du monde, hein, c'est cela qui rend possible la démarche scientifique. Qu'il y ait eu des ratés, je pense en particulier à l'affaire Galilée, où il y a eu une espèce d'empiètement d'un discours théologique sur une théorie physique, c'est bien regrettable. On en a fait une espèce de symbole, hein, mais en réalité, c'est bien dans cette civilisation-là qu'est née la science. Hein. Et on pourrait en dire aussi autant de l'ordre politique. Pour dire un petit mot quand même de l'ordre politique, et là je me fonde sur un petit texte écrit par un cardinal dont le nom m'échappe, mais qui, je crois, s'appelait Joseph de son prénom, sur la juste idée de laïcité. Donc, le cardinal Ratzinger, vous avez compris, c'est pas drôle, bon, tant pis. Avant d'être pape, donc, il avait sorti un document sur... je ne me souviens plus du titre de ce document, qui est très important, et qui parlait d'une juste idée de la laïcité, si vous voulez, c'est-à-dire une juste idée de l'autonomie du politique par rapport au à l'autorité religieuse. Ce que dit le cardinal, c'est qu'il dit... Il y a une autonomie de la sphère politique par rapport à la sphère religieuse, mais on ne peut pas concevoir d'autonomie de la sphère politique par rapport à la sphère morale. C'est-à-dire, on peut concevoir une cité juste qui ne se réfère pas à Dieu, ou explicitement à Dieu, mais on ne peut pas. Il n'y a pas de cité juste qui ne se réfère pas à une certaine idée morale de l'homme. En clair, un pouvoir politique qui renoncerait à l'idée de la dignité de tout être humain serait un pouvoir foncièrement injuste. Vous voyez, autonomie par rapport au spirituel, pas d'autonomie par rapport à la sphère morale. Hein, et ça c'est un point qui peut être important. Alors, j'étais dans ma première approche, hein, l'approche de la juste autonomie. Juste autonomie de la science, de l'art, de l'ordre politique, de la médecine ou que sais-je, par rapport à la réalité spirituelle. Mais attention, distinguer les ordres n'est pas les séparer. Distinguer n'est pas séparer. Distinguer permet d'articuler. Parce que d'un autre côté, on dit que Jésus-Christ a fondé la laïcité en disant « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais quand même, faut être sérieux. Qu'est-ce qui n'est pas à Dieu ? Ultimement, tout est dans la main de Dieu. Même ces réalités profanes dont j'ai parlé, elles sont voulues par Dieu. La nature est créée, etc. Bon, toutes les réalités sont dans la main de Dieu et d'une certaine façon, tout est de Dieu. Bien sûr, il y a une autonomie relative des réalités profanes que l'Église doit pouvoir préserver et respecter. Mais d'une certaine façon, tout vient de Dieu. Et là, il faut contrebalancer la parole du Christ, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Enfin, pas la contrebalancer, mais l'éclairer par cette autre parole à Pilate. Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te faire relâcher, de te faire crucifier ? Jésus répond, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu du Très-Haut. C'est-à-dire que la juste autonomie du pouvoir de Pilate, c'est une autonomie qui devra rendre des comptes, ultimement, à Dieu. Et donc, vous voyez qu'on ne peut pas séparer complètement les réalités profanes des réalités spirituelles. Parce que pour le coup, on ne serait plus dans l'incarnation. On serait dans un dualisme, dans une forme de dualisme qui n'est plus la logique de l'incarnation. Vous savez, dans les salles d'audience, les salles de justice, autrefois, il y avait un crucifix. On le voit encore dans les films de Hitchcock des années 50. Et c'est très beau, parce que qu'est-ce que ça dit, en fait, de l'ordre de la justice terrestre ? Ça dit que les juges, les avocats, les jurys sont face à leur conscience, et qu'en conscience, ils doivent essayer d'être le plus juste possible, et qu'ils ont cette mission-là. Donc il y a une autonomie de leur mission par rapport à un pouvoir spirituel. Mais en même temps, il y a au-dessus d'eux cet innocent condamné à mort, qui, celui-ci, est au fond le seul vrai juge, le seul juge ultime. Donc vous voyez que la présence du crucifié, qui est précisément est un innocent condamné à mort, n'est pas là pour tourner en dérision la justice humaine, au contraire, elle est là pour ultimement la fonder. Elle est là pour ultimement en dire la vérité. Donc moi, si je suis avocat ou juge, en mon âme et conscience, je fais du meilleur que je peux. Mais je sais qu'il y a ce condamné à mort dont la justice me précède. Donc vous voyez, distinction, mais pas séparation. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de crucifix dans les prétoires. Et c'est peut-être dommage. Alors, dans le sens d'une non-séparation, un autre argument, qui est l'argument de l'incarnation, c'est que pour un chrétien, puisque tout se joue dans des médiations humaines et profanes finalement, comme dit un des, je ne sais plus qui d'ailleurs, rien de ce qui est humain ne nous est étranger. C'est-à-dire que tout lieu d'humanité est un lieu de salut. A un enjeu de salut, un enjeu pour le salut. De sorte que le témoignage du chrétien est nécessité partout où l'humain est engagé. Et ça me permet d'arriver à une dernière partie sur Vatican II et la fameuse mission des laïcs. On a dit, répété, rabâché que Vatican II enfin donnait sa place aux laïcs, la mission des laïcs et tout, très bien, c'est super, enfin c'est... Mais est-ce que la mission du laïc, c'est d'animer les chants à la messe, d'organiser la sacristie Très bien aussi, il faut vraiment qu'il y ait des laïcs qui fassent ça, c'est très important et tout ça, mais ce n'est pas exactement ça que Vatican II a dit. Vous voyez. Donc on va lire des passages de Vatican II. Ce que Vatican II dit, c'est que la condition normale du laïc, peut-être on devrait plutôt dire d'ailleurs du baptisé, hein, enfin du laïc, disons par distinction avec le clerc, la condition normale du laïc, du baptisé, qui n'est pas clair, c'est l'ordre profane, l'ordre temporel. C'est dans cet ordre profane ensemencer l'évangile, partout, dans la famille, dans l'entreprise, dans la société, dans la justice, dans l'école, à l'hôpital, etc., etc., etc. Vous voyez ? C'est ça le message de Vatican II. Ensemencer toutes les réalités profanes du ferment de l'évangile. Parce que quelque chose du salut se joue dans ces réalités profanes. Alors je vous propose un second temps de lecture, qui sont des extraits de l'apostolat des laïcs, voilà, que vous avez toujours sur votre feuille. On ne lira peut-être pas tout. Les laïcs, je vais sauter une phrase. Les laïcs exercent concrètement leur apostolat en se dépensant à l'évangélisation et à la sanctification des hommes. Il en est de même quand ils s'efforcent de pénétrer l'ordre temporel d'esprit évangélique et travaillent à son progrès de telle manière que, en ce domaine, leur action rende clairement témoignage au Christ et serve au salut des hommes. Donc là, on nous parle plutôt de ce qu'on peut appeler l'évangélisation, vous voyez ? Bon. Mais il n'y a pas que ça. Comment cette évangélisation se passe-t-elle ? Le propre de l'état des laïcs étant de mener leur vie au milieu du monde et des affaires profanes, l'hôpital, hein, ils sont appelés par Dieu à exercer leur apostolat dans le monde à la manière d'un ferment grâce à la vigueur de leur esprit chrétien. Voilà, si je suis médecin chrétien, je ne vais pas arriver avec des banderoles tous les matins en disant « Jésus t'aime ». Mais c'est en accompagnant tel malade, en perdant peut-être un temps précieux pour le réconforter, en étant juste avec les infirmières, etc., 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 et les familles, que je serai amené à mettre ce ferment de l'Évangile. Alors, paragraphe suivant. L'œuvre de rédemption du Christ, salut, qui concerne essentiellement le salut des hommes, embrasse aussi le renouvellement de tout l'ordre temporel. Renouvellement de tout l'ordre temporel. La mission de l'Église, par conséquent, n'est pas seulement d'apporter aux hommes le message du Christ et sa grâce, mais aussi de pénétrer et de parfaire par l'esprit évangélique l'ordre temporel. Je saute un paragraphe. Tel est le dessein de Dieu sur le monde, que les hommes d'un commun accord construisent l'ordre des réalités temporelles et le rendent sans cesse plus parfait. Tout ce qui compose cet ordre, les biens de la vie et de la famille, la culture, les réalités économiques, les métiers, les professions, les institutions de la communauté politique, les relations internationales et les autres réalités du même genre, leur évolution, leur progrès, n'ont pas seulement valeur de moyen par rapport à la fin dernière de l'homme, c'est-à-dire, on m'a dit que pour être un bon chrétien, il fallait que je sois un bon médecin, bon, ben, je vais être un bon médecin, comme ça je gagnerai mon salut. Non, c'est plus subtil que ça, c'est que ce travail de médecin chrétien, je prends cet exemple, a quelque chose de décisif et c'est cela qui me permet de vivre pleinement mon union au Christ. Ce n'est pas un moyen, une espèce d'instrument pour être sauvé. Voyez. Voilà. Ils possèdent une valeur propre mise en eux par Dieu lui-même. Bon, je passe, je saute et je vais jusqu'à la fin du texte. Cette destination surnaturelle des choses profanes, loin de priver l'ordre naturel de son autonomie, de ses fins, de ses lois propres, de ses moyens, de son importance pour le bien de l'homme, rend au contraire plus parfaite sa force et sa valeur propre. Elle le hausse en même temps au niveau de la vocation intégrale de l'homme ici-bas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un médecin chrétien doit être plus médecin que les autres médecins. Meilleur médecin, plus compétent, plus dévoué. Hein. Ce qu'il apporte en plus comme chrétien, c'est son regard sur le patient qui est un regard qui voit jusqu'à sa destinée spirituelle et éternelle. Que la mort n'a pas le dernier mot, ça c'est bon. Mais en attendant, il faut qu'il soit aussi bon médecin, voire meilleur, que les autres. Je termine par cette dernière phrase. L'ordre temporel est à renouveler de telle manière que dans le respect de ses lois propres et en conformité avec elles, ils deviennent plus conformes aux principes supérieurs de la vie chrétienne. C'est-à-dire qu'au fond, le monde profane ressemble un tout petit peu plus au royaume. Voilà. Puisque le royaume est planté comme une graine, d'après les paraboles du Christ, hein, invisible, qui croit mystérieusement, hein, eh bien, la vocation du chrétien, et notamment du laïc, hein, c'est d'accompagner le cheminement de cette graine, sa germination, pour que petit à petit le royaume grandissent. Et là, ça se joue vraiment là où on est, dans le métier où on se trouve, dans la famille que l'on est, que l'on a, etc. Vous voyez, je crois que c'est ça, en fait, la vocation du laïc chrétien dans ce monde. Voilà. Je conclue cette fois-ci par un tout petit mot sur un sujet qui aurait dû faire une conférence entière, parce que c'est un sujet qui est passionnant, qui est la question « L'histoire a-t-elle un sens ?» Ou est-ce que l'histoire n'est que la reproduction des mêmes erreurs, des mêmes cycles, et finalement, l'histoire n'a ni direction ni signification. Vous sentez qu'on vit une époque de transition culturelle très forte. Après 2 siècles de religion du progrès, on n'y croit plus beaucoup. Le progrès, c'était une religion, une véritable foi. La foi que l'histoire du monde inéluctablement va vers un progrès irréversible, et que même celui qui par impossible s'opposerait à ce progrès, de toute manière serait emporté par le mouvement même de ce progrès. Je vous rappelle quand même, il faut faire un peu de polémique de temps en temps, que le grand Jean-Paul Sartre, éminent philosophe, avait dit dans les années 70, le marxisme, le communisme, est l'horizon indépassable de l'histoire. L'histoire a un sens pour lui, elle a un sens inéluctable, et en l'occurrence, c'était le marxisme. Y croyait-il lui-même? C'est pas sûr. Mais du fait que nous sortons de ces grands siècles de religion du progrès, nous risquons de tomber dans une désespérance qui consiste à nous faire croire que finalement, rien de nouveau sous le soleil, et que nous allons toujours d'échec en échec à travers des espoirs déçus. Et donc on pourrait tomber dans une forme de désespérance. Or, la foi chrétienne développe de manière implicite une certaine philosophie de l'histoire. Je vous la décris en la réduisant à sa plus simple expression. Sa plus simple expression, c'est la parabole du bon grain et de l'ivraie. Qu'est-ce qui progresse dans l'histoire des hommes? C'est le bon grain. Et en même temps livré. Ça, c'est du réalisme. C'est-à-dire que ce que nous dit la parabole, vous savez, le bon grain se développe, mais l'ivraie vient, est semé par l'ennemi, et finalement l'ivraie parasite le bon grain et se développe aussi à toute allure avec le bon grain. Donc le mal et le bien grandissent de façon concomitante. Et lorsque l'homme est tenté de prendre sa machette et de couper l'ivraie, Dieu lui dit surtout pas, parce que tu risques de couper le bon grain. Ça peut être la tentation théocratique. Dans l'impatience d'installer le royaume sur la terre, on va éliminer les infidèles. Et finalement, Dieu nous dit, vous allez faire plus de mal que de bien. Dans la parabole, c'est Dieu lui-même qui vient à la fin des temps pour dénouer la crise de l'histoire. Au fond, pour la parabole du bon grain et de l'ivraie, l'histoire est toujours une crise. C'est toujours un progrès du bien qui exaspère les forces du mal. D'ailleurs, on le voit bien, dès qu'il y a de la sainteté, il y a du mal qui se déchaîne. Et est-ce que l'histoire a un sens pour un chrétien? Oui, l'histoire a une signification. Elle a même une direction, d'une certaine façon. Mais la grande différence avec la religion du progrès, c'est que l'accomplissement de l'histoire n'appartient pas à l'homme. Ça n'est pas l'homme qui, par ses efforts, accomplit l'histoire, même s'il collabore à l'histoire, c'est tout ce qu'on a dit dans la dernière partie, mais c'est Dieu qui récapitule l'histoire et même qui juge l'histoire. Nous disons, nous, l'histoire jugera. Mais l'Apocalypse nous dit, l'histoire sera jugée. Voilà. Et c'est tout le sens du très beau livre de l'Apocalypse, hein, qui est toujours de nous montrer des civilisations qui sont en crise. Et que c'est le retour du Christ qui va dénouer la crise, qui va accomplir l'histoire. Est-ce que ça veut dire que pendant ce temps-là, l'homme doit se frotter, se tourner les pouces, voilà, c'est ça. Bien au contraire, hein, il est invité au combat spirituel. Et le texte de l'Apocalypse nous dit cela aussi. Veillez et priez, ça c'est l'Évangile, mais l'Apocalypse dit la même chose. Le chrétien qui est engagé dans les combats du siècle doit veiller, doit se battre, mais il sait que le salut est donné par le Christ et non pas par ses efforts. Donc vous voyez, c'est un appel à l'engagement et en même temps un appel à une certaine forme d'abandon. Et on retrouve la complémentarité peut-être, hein, de l'action et de la contemplation.